Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un, pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité ? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord ?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide. Bonjour, bonjour. Je suis Diane et vous écoutez La pelote du sexisme. La chronique qui détricote le sexisme, fil par fil. Chaque semaine, on regarde comment il s'infiltre partout. Dans nos habitudes, dans nos institutions, dans nos loisirs, et aujourd'hui, derrière nos écrans. Pendant longtemps, Internet nous a été présenté comme un formidable espace de liberté. Un endroit où chacun pouvait prendre la parole, partager ses idées, créer du contenu, entreprendre. En théorie, peu importe votre âge, votre origine ou votre genre, seules vos idées devaient compter. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire un message, puis de ne jamais le publier ? Parce que moi, oui. Et je me suis rendu compte que bien souvent, ce n'était pas parce que je doutais de ce que je voulais dire, c'était parce que je me demandais comment cela allait être reçu. Est-ce que cette phrase était trop directe ? Est-ce qu'on va penser que je suis agressive ? Est-ce que je devrais nuancer davantage ? En discutant avec d'autres femmes entrepreneurs ou expertes, je me suis aperçue que cette petite voix intérieure était loin d'être exceptionnelle. Et c'est précisément ce que montrent les études. Cette chronique m'est d'ailleurs venue en observant LinkedIn. Vous savez, ce réseau où l'on nous explique qu'il faut développer sa visibilité, construire sa marque personnelle, partager son expertise. Je remarque souvent la même chose. Beaucoup de femmes relisent leurs publications 10 fois. Avant de cliquer sur « Publier ». Elle change une photo, retire une phrase qu'elle trouve peut-être trop affirmée, hésite à donner leur opinion sur un sujet sensible ou se demande si elles sont vraiment légitimes pour parler. Évidemment, tous les hommes ne publient pas avec une confiance absolue et toutes les femmes ne doutent pas. Mais lorsque l'on connaît la manière dont les femmes sont souvent accueillies en ligne, cette prudence devient beaucoup plus compréhensible. Parce que sur Internet, la visibilité n'a pas le même prix selon que l'on est un homme ou une femme. Selon l'ARCOM, les femmes sont nettement plus exposées aux violences sexistes et sexuelles sur les plateformes numériques. Les insultes, les commentaires sur le physique, les remarques sexuelles, les menaces ou les campagnes de harcèlement ciblent très majoritairement des femmes, notamment lorsqu'elles prennent publiquement une position sur des sujets politiques, féministes ou de société. Le Haut Conseil à l'égalité estime que près d'une jeune femme sur deux a déjà vécu des violences sexistes et sexuelles en ligne. Et les auteurs sont, dans leur immense majorité, des hommes. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, cela ne concerne pas uniquement les personnalités connues. Des journalistes, des élus, des chercheuses ou encore des étudiantes racontent recevoir quotidiennement des insultes, des menaces de viol, des commentaires sur leur corps ou même parfois des photomontages pornographiques. Et ce qui est frappant, c'est que le sujet importe parfois très peu. Certaines créatrices expliquent recevoir ce type de messages alors qu'elles parlent de cuisine, de jardinage, de bricolage ou encore d'histoire. Autrement dit, ce n'est pas toujours ce qu'elles disent qui dérange, c'est parfois simplement le fait qu'elles occupent l'espace. Au fond, le cyberharcèlement fonctionne un peu comme le harcèlement de rue. L'objectif n'est pas tant de convaincre que de rappeler à certaines personnes qu'elles ne sont pas totalement légitimes à être visibles. Sauf qu'ici, cet espace est numérique et les conséquences dépassent largement l'écran. Certaines femmes sont aussi victimes de doxing. C'est une pratique qui consiste à diffuser publiquement leur adresse, leur numéro de téléphone, le nom de leur employeur ou même des informations concernant leurs proches. Et dans ces cas-là, la violence quitte alors Internet pour s'inviter dans la vie réelle. Et face à cela, beaucoup adaptent leur comportement. Plusieurs enquêtes montrent que les femmes modifient davantage leur manière de s'exprimer en ligne. Elles ferment leurs commentaires, utilisent un pseudo, renoncent à publier certains contenus, évitent certains sujets ou parfois quittent carrément les réseaux sociaux après des épisodes de harcèlement. On parle souvent de fracture numérique pour désigner les inégalités d'accès aux outils numériques. Mais il existe aussi une fracture de participation. tout le monde peut ouvrir un compte sur un réseau social. En revanche, tout le monde ne participe pas avec la même liberté. Parce que tout le monde ne paie pas le même prix pour prendre la parole, et ce phénomène est renforcé par les plateformes elles-mêmes. Car les réseaux sociaux ne montrent pas les contenus au hasard. Ils utilisent des algorithmes dont l'objectif principal est de retenir notre attention. Or, ce qui provoque de la colère, de la polémique ou de l'indignation génère davantage d'engagement. Sans que les plateformes ne le recherchent forcément, leurs mécanismes peuvent ainsi amplifier les campagnes de harcèlement ou les propos sexistes simplement parce que ces contenus circulent davantage. J'expliquais dans une autre chronique que les intelligences artificielles apprennent à partir de nos données. Les réseaux sociaux, eux, apprennent à partir de nos réactions. Dans les deux cas, ils ne créent pas les biais de notre société, mais ils peuvent les amplifier à une vitesse et à une échelle inédite. Et cela pose donc une autre question qui est « qui construit ces outils ?». Le numérique reste aujourd'hui un secteur très masculin. En France, les femmes représentent environ 27% des effectifs des métiers du numérique et elles sont encore moins nombreuses dans les postes techniques ou de direction. Lorsqu'un secteur manque de diversité, il risque davantage de reproduire des angles morts dans les produits qu'il conçoit, les règles qu'il fixe ou les problèmes qu'il choisit de résoudre. Alors, détricoter le sexisme dans le numérique, ce n'est pas seulement mieux modérer les commentaires ou sanctionner les auteurs de cyberharcèlement, c'est aussi se demander qui conçoit les plateformes, qui écrit les règles et finalement, qui se sent suffisamment en sécurité pour prendre la parole. Parce qu'au fond, la véritable égalité numérique ne consiste pas simplement à donner un compte à tout le monde, elle consiste à faire en sorte que chacun et chacune puisse l'utiliser avec la même liberté, la même légitimité et surtout le même sentiment de sécurité. Allez, on respire, on continue de détricoter, parce que la pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.
Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme. La chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un. Pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité ? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord ?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.